concours, c'est d'abord un compteur, Maurice Eftim, qui va vous entraîner ce soir une deuxième fois dans le site de Nazca. Mais c'est aussi une attitude physique à avoir, c'est-à-dire la paix, la relaxation et le voyage.
Allez, on enlève un demi-siècle, on prend un de ces petits avions qui survolent. Ah, c'est un peu l'aventure lorsqu'on part des Andes, qu'on longe ces côtes du Pacifique. Les premiers vols entre Lima et Arequipa, la découverte des pistes de Nazca. Je suis né un 29 juin. Saint-Exupéry est né un 29 juin. Je suis rat, il est rat. Je m'appelle Huit Aigles dans l'horoscope précolombien, cet horoscope aztèque. Si j'avais véritablement été Inca, Nazca, j'aurais volé. J'aurais survolé. Comme dans l'histoire de l'aéropostale, vous savez, lorsqu'on passe pour la première fois les Andes et qu'on arrive au Chili, qu'on arrive au Pérou. C'est un monde. Il y a 50 ans, on a véritablement volé en dessus de ce mystère absolu. Car l'histoire remonte dans ces années 40, mais peut-être déjà dans les années 30, lorsque les premiers avions... Bon, qu'est-ce que c'est que ce dessin? Qu'est-ce que c'est que cette piste, ce rectangle qu'on aperçoit? Et puis on passe, on va plus loin. Et c'est seulement lorsque certains scientifiques s'intéressent à cela, lorsque, par hasard, quelqu'un prend l'avion, prend des photos et découvre, au moment de la révélation photographique... qu'il y a quelque chose d'étrange, que l'on s'aperçoit que l'on est devant la table à dessin la plus extraordinaire du monde. Nazca, nous en avons déjà parlé un peu. Nous allons voir tout ce que l'on peut rêver, tout ce que l'on a pu inventer, imaginer, solutionner autour de Nazca. Ces dessins, eh bien, ils sont sortis de l'oubli grâce au progrès de la photographie aérienne, je le disais, c'est sûr. Et on en a pourtant déjà parlé au XVIe siècle, dans une chronique. Une chronique du Pérou qui a été écrite par César de León aux alentours des années 1550. Une chronique où cet homme, un des premiers Espagnols à avoir écrit sur le Pérou, déjà à partir de 1547-48, donc après les premiers conquistadors, va traverser ce désert de Nazca et il va signaler la présence de tracés sur le sol. Il parle, lui, de signaux. C'est déjà intéressant. Or, ces premiers signaux, ce sont déjà des documents révélateur pour nous. Mais il faudra attendre cette observation par les airs pour comprendre qu'il y a un réseau de lignes absolument droites, incroyable. Incroyable, je le répète très souvent, parce que cela s'entrecroise. On parcourt en tous sens cette immensité désertique comme sur de fausses routes. Et ce sont des lignes qui s'étirent sur des centaines de mètres, des centaines de kilomètres, et quand ce n'est pas même sur des dizaines de kilomètres, c'est ça qui est incroyable. Quand pour la première fois vous décollez sur le petit aérodrome de Nazca qui a été mis en service il n'y a que quelques années, parce qu'il a fallu faire connaître Nazca avant que le premier touriste ait envie de monter dans un avion et de décoller, eh bien, lorsque tout à coup vous apercevez à l'horizon dans une semi-brume cette merveille de la première ligne qui est juste dans votre champ de tir et que vous partez comme cela avec votre œil sur 10-15 kilomètres. C'est inoubliable. Surtout ce fait que ces lignes franchissent des plaines totalement arides, c'est le désert, puis des collines sans dévier d'un seul pouce. C'est la perfection absolue, peut-être par de simples visées, d'accord. Mais c'est très impressionnant, même au sol, lorsque tout à coup, en marchant le long de la Panaméricaine, en roulant le long de la Panaméricaine, n'oubliez pas, vous êtes à 400 km au sud de Lima, et vous êtes sur une de ces pampas absolues, avant de replonger dans une petite vallée creusée par ces rivières qui descendent des Andes, avant de retrouver la verdure, vous regardez sur la droite, vous voyez la ligne jusqu'à l'horizon. Vous regardez sur la gauche de la Panaméricaine, la même ligne a été coupée par la route elle-même. La chance, c'est si vous êtes archéologue, si vous avez une autorisation spéciale, et il faut en avoir une, je vous le rappelle, vous aurez peut-être la possibilité de pénétrer sur cette pampa à pied, car la voiture démolit tout, avec des raquettes, si c'est possible, et monter sur une colline. Et le hasard fera que tout à coup, autour de vous, vous allez découvrir une véritable toile d'araignée étendue sur le sol, comme si toutes les lignes partaient de l'endroit d'observation que vous avez choisi. C'est assez extraordinaire de voir que, en bordure des vallées surtout, on distingue aussi d'immenses places, ce que je pourrais appeler des pistes qui semblent balayées, méticuleusement nettoyées en fait, et qui ont véritablement l'aspect de soit de grands rectangles, soit de véritables trapèzes, des triangles, et tout cela se détache extrêmement bien. On le voit surtout par avion, naturellement, du terrain environnant, parce que je vous avais expliqué qu'il suffisait de prendre un gros balai et d'enlever la surface pierreuse de ce désert pour que tout à coup l'oxydation, qui a un ton un peu rougeâtre, disparaisse et que dessous vous aperceviez ce côté un peu plâtreux, un peu blanchâtre du fond. Et c'est ça le miracle de la table à dessin de Nazca. Car le fait d'avoir décollé ces petits cailloux à l'aide de ces balais vont permettre de créer des surfaces parfaitement propres, mais surtout parfaitement visibles. Elles étaient beaucoup plus visibles il y a 1000 ans qu'aujourd'hui. Et c'est grâce à certains personnages comme Maria Raichet, dont nous avons déjà beaucoup parlé, cette femme qui vit, on a l'impression qu'elle est éternelle, qu'elle est là-bas depuis 50 ans, et c'est vrai, elle-même a acheté des dizaines et des dizaines de balais. Je me rappelle, elle m'a raconté une fois, nous étions installés en bordure de la route, on attendait une coccinelle pour pouvoir pénétrer sur la seule route qui nous introduit vers la Pampa. Elle me disait, je crois que la période où j'ai eu le plus de difficultés dans mes contacts avec les habitants de Nazca, c'est une toute petite ville, c'est lorsque j'ai vraiment découvert les premiers dessins et que j'ai voulu les nettoyer. C'est-à-dire que j'étais buriné comme c'est pas possible. Imaginez-vous une femme de 45 ans qui est sous le soleil toute la journée avec ses raquettes aux pieds, sauvage, qui ne mange pratiquement rien parce qu'elle estimait que les légumes n'étaient même pas bons forcément, et puis la viande non plus. Elle se nourrissait de trois fois rien, elle continue à se nourrir de trois fois rien. Elle a une allure d'indienne, et puis tous les jours, ou tous les 10 jours, ou tous les 15 jours, elle venait acheter 5, 10, 15 balais. C'était vraiment la sorcière du coin. Et c'est vrai qu'après, elle repartait sur sa pampa et qu'elle redécouvrait certains de ses motifs en les retravaillant, non pas en les transformant, comprenons-nous. Au contraire, de manière extrêmement méticuleuse, elle ne faisait que dépoussiérer ces traces qui n'ont, lorsqu'il s'agit alors de figures, qui est le troisième cas d'espèce, à part les grandes pistes et les grandes places dont je parlais tout à l'heure, eh bien, il y a aussi ces figures qui, elles, les plus grandes, atteignent 150 mètres de long. Et ces figures sont faites par un simple trait qui, en principe, n'a qu'à peu près 30 cm de largeur. Donc c'est un large trait, si vous voulez, qui permet de parcourir un circuit afin de donner petit à petit l'occasion de créer une forme qui souvent se referme sur elle-même. Le singe, la baleine, le cachalot, enfin tous les oiseaux aussi qu'on a reproduits, ça c'est un ensemble de figures, il y en a 18 importantes. Et c'est vrai qu'on retrouve des pélicans, on retrouve aussi des lézards, la fameuse araignée qui est peut-être une des figures les plus parfaites et qui fait incontestablement penser au tissage et à différentes actions des humains qui ont été là tout proches, puisque je vous disais aussi, nous sommes en bordure de ces plaines, on a l'impression que c'est quelque chose qui est à peine en dessus de vos yeux, en dessus de votre tête. L'imagination fait que même lorsque vous redescendez dans les petites vallées, lorsque vous retrouvez la vie, vous pensez encore à ces images que vous avez vues un peu ailleurs, un peu dans l'au-delà. C'est pour cela que ce côté indien, cette âme, ce côté mystique, je crois qu'il ne faut pas l'oublier. C'est quand même une fonction qui fait que lorsqu'on découvre ce côté indigène, on s'imagine en même temps que tout cela tient. Enfin, tient pour autant que l'on ait cette imagination fertile qu'a dû avoir l'habitant de Nazca. Enfin, le colibri, tous ces animaux qui ont été dessinés dans ce sable, sur cette pampa, c'est un peu aussi un message assez curieux. On pense aux céramiques, on pense à ces dizaines de milliers d'Indiens qui ne vivaient que par irrigation, par agriculture interposée, et on pense à ce contact étrange entre la mer, qui est assez loin, l'Amazone, des animaux, des choses qui n'existent pas forcément ici, mais comme si l'on parlait également par ces motifs d'ailleurs. Et puis, on remarque ensuite un personnage appuyé sur une colline. celui qu'on a appelé le cosmonaute avec cette tête étrangement ronde et ses grands yeux tout ronds. Et puis, il y a des spirales, des zigzags aussi, comme si l'on avait présenté des aiguilles avec du fil. Je donne déjà plusieurs théories involontaires, parce que la première image n'est pas forcément la bonne. Mais c'est ce collage, ce sandwich d'images entre la vie, la mort, il y a des millions de tombes aux alentours, et cet endroit où l'on se rend comme en pèlerinage, comme si l'on allait vers quelque chose. C'est ce mélange qui est curieux et qu'il faut maintenant comprendre. Allez, on commence du côté théorique maintenant. La première idée qui a eu lieu, enfin, qui a été trouvée, l'inventeur du site, c'est Paul Kossok. Paul Kossok, c'est celui qui a fait connaître au monde, grâce aux aviateurs interposés, le fait que Nazca existait. Et lui, dès le départ, il a pensé que ces figures, c'était d'abord des cheminements, que c'était des choses rituelles, que c'était vraiment des voies rituelles. Ça, c'est la toute première idée. Puis ensuite, peut-être parce qu'il a rencontré Maria Raiche, peut-être parce que c'était aussi un peu la mode à l'époque, il a pensé à des relations avec le calendrier. Mais c'est normal, il étudiait l'irrigation, il étudiait aussi le fonctionnement, je dirais, de tout le désert et de toutes les vallées adjacentes. Alors ça, c'est la première idée. Et Maria, elle viendra se greffer là-dessus. Elle va séjourner, je vous l'ai dit, une cinquantaine d'années. Elle va même se polariser. Sa pensée va rester fixée d'emblée sur cette fonction astronomique de Nazca. Et elle va carrément dire qu'on est devant le plus grand livre d'astronomie du monde. Comme si tout à coup, on avait une table sur laquelle les hommes avaient eu besoin de parler d'astronomie et surtout de parler d'un calendrier, une sorte de calendrier antique que les hommes auraient repris. Alors c'est une hypothèse intéressante, mais elle ne repose que sur une chose, c'est que ces lignes sont tellement insensées qu'on a envie, c'est vrai, de chercher le bout de la ligne, c'est-à-dire la visée, et de voir un peu quel est le point d'observation, l'orientation de toutes ces lignes. Et on cherche involontairement aussi un lever, un coucher de soleil, la lune, les étoiles, les planètes, enfin. Et on se dit, est-ce que ça a pu exister à une date donnée? Alors ça, c'est la première idée. Alors, ce qui est apparu, je crois que c'est aussi assez logique, ce qui a fondamentalement bouleversé Kossok, c'est le fait de s'être retrouvé le 22 juin, au moment du coucher du soleil, juste en face d'une ligne, et de voir que ce soleil se couchait exactement au bout de la ligne. Ça, c'est vrai que ça a dû être très impressionnant. Mais à partir de là, eh bien, il y aura une théorie qui va se faire, c'est-à-dire qu'on va petit à petit tenter d'étudier. Il ne faut pas oublier que Maria Raiche avait fait des études en Allemagne d'astronomie et de mathématiques, donc elle a été très tentée par cette théorie, et elle va même faire des recherches en disant, c'est vrai que l'axe de la Terre, vous le savez, a changé, il faut 26 000 ans pour qu'on retrouve les mêmes positions des étoiles que je vais appeler fixes dans le ciel, parce qu'il faut bien leur trouver un nom. Cette fixité fait que sur 13 000 ans, donc 26 000 ans, on se retrouve petit à petit au même point. Donc il a fallu faire des calculs extrêmement précis pour savoir que telle et telle ligne était en fonction en 500 de notre ère, en 1000 de notre ère. Ça, c'est une idée qui est importante, mais qui n'a pas donné de véritables résultats, à part les équinoxes, les solstices, qu'il faut d'ailleurs bien chercher. Car l'horizon même de Nazca n'est pas aussi simple à observer, en tout cas pas aujourd'hui. Il y a beaucoup de brumes qui sont apparues depuis quelques années. Maria prétend que quand elle était arrivée dans les années 40, le soleil était toujours là et que le ciel était si bleu que cette observation était possible. Pollution, pourquoi pas.
Oh,
première idée, un calendrier agraire qui permet de situer exactement les saisons. C'est intéressant quand on pense au problème de l'eau que nous avons analysé, c'est-à-dire le problème de l'irrigation, la fonte des neiges dans les Andes qui amène la vie, qui permet l'agriculture, les crues des fleuves, la date des semailles, tout cela, bien sûr, on le ressent très fortement. Mais il y avait cette problématique de la précession, comme on l'appelle, des équinoxes, ce déplacement dans l'espace et dans le temps des points de visée. Mais cela, nous l'étudierons tout à l'heure lorsque nous aurons inventé l'ordinateur, car on a même travaillé grâce à cela à partir d'études qui avaient été faites à Stonehenge. Mais j'aimerais, à part ce côté un peu scientifique ou pré-scientifique, parce que Maria a été jusqu'à chercher des visées absolues, a été jusqu'à chercher des mesures également, prétendant qu'il y avait une coudée précolombienne et qu'il suffisait de prendre du sisal et de faire une ficelle bien fixe entre son pouce et le coude, et finalement à partir de là créer des demi-cercles, enfin toute une étude mathématique qu'elle continue encore aujourd'hui à avoir dans sa tête. Elle dort en pensant précolombien et en pensant aux mathématiques précolombiennes. Elle a inventé beaucoup de choses, elle n'en a pratiquement écrit aucune, ce qui est dommage, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va certainement hier, demain, après-demain mourir, et elle est peut-être déjà loin, mais au fait elle n'aura rien laissé derrière elle. On dirait qu'elle est totalement Nazca, c'est fou. Ou elle vous dira, dans mon prochain livre je publierai l'idée, et puis rien. De science, je mettrai encore dans ce même cercle d'initiés un certain Horkheimer. Horkheimer, c'est à peu près au moment de ma naissance qu'il a simplement tenté une analyse de ces lignes en relation avec les airs, c'est-à-dire ces places qui sont parfaitement nettoyées. Il a remarqué qu'il y avait de toutes petites places et qu'elles devaient constituer des espaces qui étaient plutôt réservés. Je veux dire, comme si on avait affaire à une chapelle par rapport à une grande nef. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire des airs secondaires qui permettaient probablement de danser ou d'avoir un culte, par exemple, aux ancêtres, puisque les tombes ne sont pas si loin que cela. Enfin, lui voyait surtout cet aspect rituel, qui, je l'avoue, lorsqu'on connaît bien l'Indien, est celui qui, moi, en tout cas, me tente le plus. Et puis ensuite, il y aura alors les éclatés de l'histoire. Enfin, là, attention, on va véritablement partir dans un monde assez fou. C'est un peu la mode entre 50 et 60, plus exactement 68, si vous voyez ce que je veux dire. C'est vraiment l'époque où, tout à coup, l'homme se découvre non seulement le Saint-Exupéry de tout à l'heure, capable de survoler les Andes et de découvrir les pistes de Nazca, mais tout à coup, vous décollez, vous montez, la planète devient bleue, vous êtes en satellite, vous êtes en fusée, vive les extraterrestres. Curieusement, Nazca, ça a quelque chose de suisse aussi, parce que 68, c'est la révélation au monde, par millions d'exemplaires, il faut bien le comprendre, de certains ouvrages sur ces objets volants non identifiés. Enfin, c'est véritablement cette nouvelle mythologie. Elle m'intéresse beaucoup, parce qu'à chaque époque, à chaque virage. En parlant de Nazca, j'ai parlé du petit chroniqueur de 1547. J'ai parlé ensuite du premier avion qui survole notre Syntex de service qui voit les pistes. Et maintenant, à partir de mon satellite, d'une fusée Atlas, cette mythologie du XXe siècle, c'est Erik von Däniken qui va l'inventer, ce qu'on a appelé la présence des extraterrestres. Il est né en 68, ce bouquin. Ensuite, il y a le retour des étoiles. Non, c'est pas le retour des étoiles, je crois que c'est le retour aux étoiles. C'est un livre qui a aussi fait un tabac en 1969. Et c'est vraiment ce tirage en millions d'exemplaires qui nous fait comprendre que, en inventant totalement, avec un i minuscule alors, en inventant totalement des solutions pour tous les mystères de la Terre, ce von Däniken, Charroux et d'autres vont donner des solutions qui vont plaire énormément aux gens. Qu'est-ce que je fais? Si ce n'est vous émerveiller un peu, vous faire voyager, vous faire rêver. Ben, la mythologie du XXe siècle par extraterrestres interposés, ben, c'est déjà un peu E.T. En 68, lorsqu'on parlait d'E.T., on pensait surtout à ces terrains d'aviation étranges de Nazca, où une fois peut-être, comme disait von Däniken, les extraterrestres seraient venus, auraient décidé de visiter la Terre, d'installer en somme une sorte d'aérodrome improvisé. Attention, c'est seulement la première piste. Puis ensuite, les gens de Nazca, tellement admiratifs de ces gens venus d'ailleurs, se rendant compte qu'ils ne revenaient pas, auraient dit, ben tiens, si on leur faisait de nouvelles pistes, peut-être qu'ils reviendraient. Alors on a fait de nouvelles pistes, des dizaines, des centaines de pistes, puis ils sont toujours parvenus. Puis ensuite, il y a eu un autre ouvrage qui s'appelle Le Matin des Magiciens, tout le monde le connaît, c'est Powell, c'est puis Jacques Bergier, enfin Louis Powell, et Bergier qui l'ont écrit. Alors c'est encore plus poétique, enfin eux... Il parle carrément qu'on le voit simplement par photo. On a l'impression qu'on a affaire à un balisage de pistes d'atterrissage. Vous êtes à Cointrin, vous êtes à Cloten. Enfin, ça, c'est intéressant. Et puis tout à coup, moi, j'arrive là. Et puis je vous dis, tiens, qu'est-ce que vous faites de cette colline qui vous embête en face, là juste là, vous voyez, en plein milieu de votre piste. Cette colline qu'on grimpe et qu'on redescend doucement de l'autre côté. Mettez-y un avion, mettez-y une fusée, mettez-y une soucoupe volante, et vous verrez, ça n'est pas si pratique que cela. C'est en tout cas bien loin de l'image un peu plate de Cointrin.
Oh.
musique en soi n'a pas de frontières. C'est vrai qu'on pourrait être... On pourrait se trouver à Karnak, on pourrait se trouver à Stonehenge. Ce sont des énigmes presque aussi impressionnantes que celles de Nazca. Vous venez d'entendre cette langue celte superbe. Bah, je crois qu'elle va très bien avec l'endroit. Ça me fait penser à une toute autre chose. Car je crois qu'en fait, lorsqu'on se contente d'affirmer des choses de manière un peu sensationnelle, eh bien, on a justement beaucoup plus de chances de séduire. C'est pas vraiment ma tasse de thé. Non, je préfère être souvent plus limpide par rapport à cela. Mais le côté sensationnel, ça me rappelle la fabuleuse histoire, c'est de nouveau une histoire de radio, celle d'Orson Welles qui, aux États-Unis, tout à coup, dans une simple émission, a annoncé que les Martiens étaient arrivés. Ça a été, une espèce de folie absolue dans le public et tout le monde a réagi au premier degré. Donc c'est vraiment une nouvelle sensationnelle et quand je parle de l'appétit des hommes, quand je parle de ce siècle scientifique, ce siècle un peu aride, un peu froid, bah c'est justement pour combler ce besoin de merveilleux que non pas le petit ouvrage de Maria Reiche, non pas l'ouvrage scientifique sur Nazca va être vendu, mais au contraire l'arrivée des extraterrestres et ses théories farfelues. Il y en a une autre qui me plaît beaucoup. Puisqu'on est en plein vol là aujourd'hui, j'aimerais vous raconter l'histoire de Condor, enfin Condor numéro 1, puisqu'on l'a même, appelé ainsi en pensant qu'il y aurait d'autres vols après celui-là. C'est un vol au-dessus de Nazca, mais un vol qui a eu lieu en ballon. Ça, c'est une image qui me restera toujours en 1976, enfin fin 75, en novembre 75, si ma mémoire est bonne. Woodman avait utilisé cette idée du ballon. En fait, il avait émis des hypothèses assez curieuses. Il avait repris pratiquement toutes les anciennes légendes, car même à Nazca, c'est vrai, on parle toujours de diables volants, de personnages volants, d'au-delà. On a cette impression de décoller du sol. N'oubliez pas que les précolombiens avaient la manie de se droguer. Hein, c'est un voyage véritablement. Et il y a plein de légendes qui suggèrent que les ballons auraient pu être utilisés en Amérique du Sud. C'est-à-dire qu'en tout cas, l'élévation, moi je la prends uniquement par l'idée de la drogue, ça suffit amplement, aurait existé. Et bien sûr, là, on a dit, bah tiens, si Joseph et Jacques Montgolfier ont pu faire cela en 1783, pourquoi est-ce qu'on ne l'aurait pas fait avant en Amérique du Sud? Et pourquoi est-ce que des prêtres, des chefs de Nazca ne se seraient pas placés dans cette nacelle de Condor? Condor numéro 1 aura une nacelle, vous savez, un peu comme les bateaux du lac Titicaca, ces fameux bateaux en totora, ce qu'on a utilisé aussi pour faire le Kon-Tiki, enfin traverser le Pacifique avec Thor Heyerdahl, enfin toutes ces théories fantastiques des années 50, 60, 70. Et là, eh bien, on aurait placé ces chefs, ces prêtres à une certaine hauteur dans leur ballon à air chaud et ils auraient pu diriger les travaux, leur dire voilà, vous faites la ligne un tel, vous faites la place un tel. L'image est très sympathique, elle est vraiment farfelue, mais ce qu'il faut dire, alors là, de manière extrêmement sévère, c'est que nous n'avons retrouvé il faut savoir que nous sommes dans un désert parfait, tout se conserve. Nous n'avons retrouvé aucune nacelle de ballon, aucune toile particulière. Il y a des toiles, on en parlera tout à l'heure, de grandes dimensions qui ont été découvertes, mais on n'a rien trouvé de tel dans les tombes ou dans les sépultures de Nazca. Mais ce qui a été, on peut le dire, véritablement révélateur, c'est le fait que l'idée a fonctionné. Et c'est assez fou parce que on avait analysé les échantillons de tissus précolombiens, on avait recherché quelque chose d'assez serré, et puis on avait mis un spécialiste sur l'histoire qui avait prétendu qu'avec ces tissus-là, il était impossible de les remplir d'air chaud. Et puis ces scientifiques ou ces pseudo-scientifiques avaient répondu non, avec la fumée que nous allons produire sur ces aires étranges qu'on a retrouvées, c'est vrai qu'il y a des cercles de pierre ou des pistes comme des sortes de cratères où l'on aurait pu préparer du feu, il y a eu des analyses qui ont été faites où on prétend qu'il y a eu effectivement du feu à ces endroits-là, eh bien on a préparé la nacelle, on a fait le feu et ils prétendaient que les particules de fumée allaient remplir petit à petit les pores des tissus et qu'alors le ballon pourrait s'élever. Et ce qui est fantastique, c'est qu'il s'est élevé. Il est monté à 30 mètres et il a commencé à flotter en dessus des pistes de Nazca.
Oh,
tout à l'heure, nous étions en 68, nous rêvions. On rêve aussi avec la voix d'Ima Soumak. Nous rêvions que les extraterrestres étaient arrivés, eh bien pratiquement au même instant, à propos de Nazca. Le plus scientifique des scientifiques va aborder le sujet d'une façon on ne peut plus 20e siècle. Il s'agit de Hawking. Peu de personnes le connaissent, même à Nazca. C'est un astronome de Boston qui va être chargé en 67 de soumettre une thèse astronomique à propos de ces lignes de Nazca à un examen absolument rigoureux. Et c'est la première fois qu'on va le faire. C'est quelqu'un qui avait étudié, tout à l'heure nous parlions celtes, tout à l'heure je vous parlais de Stonehenge. C'est là qu'il a fait ses premières recherches, et là, au moyen d'ordinateurs, de programmes extrêmement raffinés, en tenant compte de toute cette organisation de la précession des équinoxes, donc ce déplacement de l'axe terrestre, il va créer une sorte de catalogue de toutes les étoiles visibles durant une période extrêmement longue, je dirais même toute la préhistoire. Ça paraît être peu de choses, mais c'était la première fois qu'on pouvait mettre sur ordinateur le ciel de toutes les époques de l'humanité. Et Hawking et son équipe vont d'abord travailler à Stonehenge, ce n'est pas le propos d'aujourd'hui, mais c'est un lieu absolument extraordinaire. On pourrait peut-être y aller une fois. Et revenons peut-être à Nazca, parce que là, il va reprendre la même idée grâce à un simple théodolite. Il va observer des points à l'horizon en suivant les lignes, en suivant les rectangles, en suivant les différentes formes. Et il va prendre des mesures, surtout à propos de 21 triangles. Ce sont des places, hein, ces énormes places. Et il va prendre, je ne sais plus, 70 ou 80 lignes. Et il va prendre soin de calculer chaque visée, enfin de prendre... Comment est-ce qu'il faut l'expliquer ? Il va regarder des deux côtés, si vous voulez. C'est-à-dire qu'il va prendre les deux horizons possibles et il va prendre en fait les extrémités de chaque chose et les mettre dans son ordinateur. Bon, c'est un système assez compliqué. On envoyait tout cela à Arequipa, puis par satellite. Enfin, c'était vraiment le 20e siècle. Et là, on allait en somme effectuer des mesures sur à peu près 190 directions différentes. Parce que je double bien sûr le chiffre puisqu'il les a pris des deux côtés. Alors, il y avait 45 points importants dans l'espace, les 45 étoiles ou points lumineux ou planètes qui étaient les mieux visibles au cours de l'histoire de Nazca, donc les astres visibles au-dessus de l'horizon et surtout à la latitude de Nazca, entre, je crois qu'il a pris 5000 avant Jésus-Christ et jusque dans les années 1900 de notre ère. Donc obligatoirement, dans ce temps-là, eh ben, il a fallu que les gens de Nazca, ces Indiens, dessinent et nettoient, balayent leurs pistes. Et l'ordinateur, il acceptait en plus, bon, on avait laissé une sorte de tolérance d'un ou 2%. Parce que c'est vrai que les angles de visée proposés auraient pu être erronés ou avoir une petite... Enfin bon, on avait encore laissé une certaine tolérance et malheureusement, les résultats vont être terriblement décevants. C'est-à-dire qu'il n'y aura que 20% des visées qui auront un objet, si vous voulez, un sujet au bout. Donc 80% sont négatifs. Et c'est beaucoup. Ça veut dire que sur pratiquement 200 visées, sur une cinquantaine de points lumineux parfaits, les plus puissants à l'horizon, ben, mon Dieu, si on n'a qu'une étoile sur quatre par rapport à la piste, un soleil sur quatre par rapport à une piste, ça signifie simplement qu'en conclusion, ben, ceci n'a rien d'astronomique, en tout cas pas de fonction astronomique, et qu'il n'y a peut-être même pas de rôle à rechercher véritablement du côté d'un calendrier extrêmement précis, comme on avait tenté de le faire à Stonehenge. Donc, ces lignes étaient totalement inadéquates pour observer le lever des étoiles, car en plus, elles sont totalement invisibles de nuit. Et puis en fait, il y a encore Genève, c'est la dernière théorie, la théorie genevoise, celle d'Henri Stirling qui a été présentée il y a quelques années ici aux Américanistes. Américanistes qui travaillent avec le musée d'ethnographie de Genève. Américanistes qui se sont réunis plusieurs fois autour de thèmes tout aussi intéressants que celui de Nazca. Et là, Henri Stirling a publié d'ailleurs un ouvrage complet sur Nazca en essayant de prouver quelque chose d'assez curieux. J'ai beaucoup de peine à en parler parce que je l'ai moi-même invité à donner une conférence particulière pour s'expliquer. Et au fond, il s'agit de la théorie textile. L'idée de Stirling, c'est d'abord partir d'une révélation qui moi m'avait déjà ébranlé, touché. C'est quelque chose qui au départ paraît fou. C'est la connaissance parfaite de ce qu'est un textile pour un Indien. On en a parlé à l'occasion de ces fameux textiles, mais quand on retrouve une pièce d'étoffe d'un seul tenant qui fait plus de 20 mètres de long sur 4 ou 6 mètres de large, on est très impressionné, surtout quand on le sait, lorsqu'on s'intéresse au textile et qu'on sait que cette pièce n'a été faite qu'avec un seul fil, c'est-à-dire une entrée et une sortie. Et la plus grande des pièces que l'on connaisse aujourd'hui, je dirais même pièce au monde, elle fait 28 mètres de longueur sur 4 mètres et quelques de largeur. Ça représente à peu près 150 ou 160 kilomètres de fil à deux brins, d'un seul tenant, donc vous pouvez encore doubler le chiffre si vous voulez, puisqu'il a fallu d'abord faire un premier fil et ensuite l'utiliser pour faire le deuxième brin, donc il faut déjà doubler cette distance. Vous avez en fait 320 km de fil unique, ce qui est complètement fou. Et à partir de là, on pourrait même s'amuser avec des surfaces, je sais pas, 80 mètres carrés, 160 mètres carrés pour les plus grandes. Ça vous donne une meilleure idée. J'ai dû relever certains chiffres parce que ce sont des chiffres impressionnants, c'est vrai. Et une chaîne est formée, il faut le savoir, d'un va-et-vient vient de cet unique fil. Donc il a fallu trouver quelque chose par rapport au métier à tisser pour solutionner un tel travail. Et ce qui est intriguant, c'est que si nous arrivons à des distances aussi incroyables, des kilométrages aussi fous, bah, c'est surtout que tout cela a été obtenu grâce à une technique extrêmement rudimentaire, puisqu'on a affaire uniquement à la petite fusaïole de l'Indienne, celle qu'on voit encore dessinée sous la plume des chroniqueurs, des premiers chroniqueurs espagnols, ou des premiers chroniqueurs indiens qui dessinent à l'espagnol. Alors, quelle solution apporter à cette idée du tissage? Attention, ces tissages n'ont pas été trouvés à Nazca. Ils ont été trouvés du côté de Paracas, du côté de la mer, sur cette presqu'île totalement sablonneuse, balayée par les vents, dans la nécropole la plus folle, ces 420 et quelques momies. C'est de là que viennent ces tissus. Nous sommes à Nazca, nous sommes très loin de l'endroit. C'est comme si je vous disais qu'ici à Genève, on avait tissé des tissus pour les enterrer à Bâle ou à Chafouz. Je crois qu'il faut déjà être conscient de ce tout petit problème. À Nazca même, nous n'avons pas de tissus si grands. Vous entendez cet Indien qui frappe, qui frappe, qui frappe. Ce bruit assez curieux que vous entendez, c'est effectivement quelqu'un qui fait des travaux. Mais ça arrive de faire des travaux. Vous voyez, Kanaska, on a travaillé pendant des centaines d'années pour balayer, pour casser du caillou, véritablement, et créer ces pistes. Stirling pensait, lui, qu'on était capable de nettoyer des aires, des pistes de surface, disons-le, extraordinaire, tout simplement pour stocker du fil et pour permettre ces tissages incroyables. C'est assez difficile quand on s'est promené véritablement, ce que Stirling n'a pas vraiment fait, lorsqu'on s'est promené véritablement dans la pampa et qu'on a marché avec ses raquettes et qu'on s'est rendu compte que l'on marchait sur des rasoirs, que même si des places sont nettoyées, elles le sont, mais il y a des tas de cailloux qui sont des endroits de réunion, si vous voulez, du matériau. Vous avez des bordures avec des murets. Alors, l'idée, c'est de stocker le fil en mettant des poteaux, puis reprendre sans arrêt ce fil l'un sur l'autre, et petit à petit resserrer, bien sûr, ces kilométrages pour créer la chaîne et ensuite la trame. Enfin, tout le problème du tissage se trouvant résolu par des pliages successifs et par l'élaboration d'un seul fil de 160 km de long. Or, j'en ai beaucoup discuté avec des spécialistes, et particulièrement des américanistes, même ici à Genève, qui restent persuadés que le fil en double brin est tout à fait réalisable au fur et à mesure. C'est-à-dire qu'il suffirait, en fait, de créer 30 ou 40 mètres de fil et de le repasser et de continuer. Ça, c'est ce qui casse un peu la théorie de Stirling, qui est pourtant extraordinaire, qui fait beaucoup rêver et qui est terriblement intelligente. Je veux dire qu'elle est extrêmement pratique. C'est vrai que l'inspiration qui fait que partir du textile dans une région où il y a le coton lui-même étant dépendant de l'eau, de ses vallées fertiles, de l'irrigation, tout se tient assez bien. C'est vrai que le textile, dans son sens rituel, poétique, spirituel, religieux, a été quelque chose d'essentiel pour l'Indien. C'est vrai, mais c'est l'aboutissant de quelque chose. Or, les pistes elles-mêmes ne s'expliquent pas forcément, même si tout à coup une piste donne sur un rectangle et qu'un motif qui se trouve à côté pourrait être, etc. Ça n'est pas si simple. Je crois que Nazca, c'est une fois de plus une solution indienne qui devrait être donnée, car on a peu, en fait, laissé la solution indienne s'épanouir. Oui, je veux dire par là qu'on en avait déjà parlé lors de notre dernière intervention, c'est le fait que par exemple on a découvert sur place que pratiquement toutes les formes en triangle ou en flèche suivaient par exemple le cours d'eau des vallées, comme si on donnait des directions lorsqu'on voulait nous parler des Andes. On sait par exemple que tout se relie autour de ces dates importantes. Vous voyez que je parle aussi de calendrier, décembre, la montée des eaux. On pourrait dire aussi qu'on a trouvé au Cusco des mausolées étranges, qu'on a trouvé aussi cette façon de mettre des cailloux les uns sur les autres, de créer des lignes en toile d'araignée dans l'espace. Donc dans l'ensemble du Pérou, même dans des zones totalement différentes, dans des zones où il n'y a pas de coton, où il n'y a pas de textile, où il n'y a pas de possibilité de voler, où il n'y a pas, même pas la possibilité d'avoir une pampa absolument plate, on a retrouvé les mêmes idées qu'à Nazca. Et ça me paraît évidemment important. Et puisqu'on a retrouvé un peu partout, ce ne sont pas seulement des céramiques brisées, qui sont des contenus, qui sont des enveloppes, qui permettent d'avoir du liquide, qui permettent d'avoir une coupe, hein, comme une coupe dans une église. Vous saisissez l'eau bénite, etc. On a retrouvé un peu partout également, que ce soit à Cusco, que ce soit à Nazca, mais sur tous les lieux sacrés, on a retrouvé des coquillages. Vous voyez bien que c'est l'idée de la vulve, c'est l'idée de la vie, l'idée de la naissance, que l'on parle d'une sépulture, que l'on parle de l'irrigation, que l'on parle de ces zigzags incroyables, des canaux souterrains, tout cela, c'est l'essence, je le répète, c'est l'essence même qui vous offre la possibilité d'exister comme Indien, pas comme occidental, pas comme astronaute du XXe siècle, ni comme marchand de textile, car on pouvait travailler toute une vie pour son futur dans l'au-delà. Et s'il fallait trouver le moyen de tisser quelque chose de 30 mètres de longueur, c'était pour l'éternité. Vous aviez 30 ou 40 années devant vous pour le faire. Prochaine, j'aimerais vous retrouver sur la grande place de Bruxelles, tiens. Bruxelles, ou peut-être même un peu à Gand. Enfin, dans les Flandres espagnoles. J'aimerais vous présenter Dürer, ce grand peintre qui verra les objets les plus incroyables du monde. Un mot que j'aime utiliser parce que croire en quelque chose, lorsque c'est en or, lorsque c'est de l'orfèvrerie, et puis savoir que c'est juste à côté de chez vous, dans une banque fondue, en lingots, ça n'est plus tout à fait du rêve.
J'espère que vous avez noté le prochain rendez-vous avec Loncourt, mercredi 9 mai, entre 19h et 20h, avec Maurice Sefti, cela va de soi. Radio Lac 20h, vous avez maintenant rendez-vous avec La Croisière de Nuit et Club de Nuit à partir de 22h30.